Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme chaque soir en direct sur CNews sans aucune interruption jusqu'à minuit pour débriefer les grands faits d'actualité du jour. Tatiana Renard-Barzac est parmi nous ce soir. Bonsoir, chère Tatiana, journaliste politique. Jean-Claude Dacier, évidemment, comme tous les mercredis.
Bonsoir.
Bonsoir, président, expert en peu président. Tout le monde sait pourquoi je vous appelle président, mais je vous appellerai toujours président, ancien président de l'Olympique de Marseille.
Un peu, mais, bon.
Mais c'est pas grave, je le garde moi. Chroniqueur politique également, bien sûr. Michael Sadoun, expert en politique publique. Pierre Gentillet, de l'autre côté de la table. Bonsoir, cher Pierre, avocat. Les équipes CNews, Karim Abric, comme tous les soirs. Bonsoir à vous et Johan Usaï du service politique. On a beaucoup, beaucoup de thématiques à évoquer ensemble. C'est un événement, c'est un symbole fort, c'est historique. Le Sénat s'est donc prononcé ce soir l'inscription de l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution a été soumise au vote des 348 sénateurs en début de soirée et les élus de la Chambre haute ont voté en faveur de l'inscription dans la Constitution de la 5e République du droit des femmes à cette IVG. Michael Dos Santos résume cette soirée et ses débats au Sénat.
Ce soir, le Sénat a écrit une nouvelle page du droit des femmes. Ce vote est historique.
Après 3h30 de débat, le Sénat a validé l'inscription dans la Constitution française de la liberté de recourir à l'IVG. Dès l'ouverture de séance, Éric Dupond-Moretti met la pression sur les parlementaires.
Les Françaises, les Français nous regardent et attendent que nous soyons tous collectivement à la hauteur de l'attente populaire, à la hauteur des combats passés, à la hauteur de la vocation universelle de la France.
Quelques minutes plus tard, Stéphane Ravier, seul contre tous, défend sa motion de rejet contre la constitutionnalisation de l'IVG. Mélanie Vogel, élue écologiste, prend la parole. Le ton monte.
Vous avez un seul mérite. C'est la constance que vous avez à pouvoir nous démontrer que nous avons raison de vous donner tort. On ne vous a pas empêché de parler.
Assieds-toi et ferme-la.
Dans le texte final, l'exécutif prévoit que la loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une IVG. Une liberté garantie qui n'est pas du goût des Républicains.
Il y aurait donc dans la Constitution des libertés et des droits garantis et d'autres qui ne le seraient pas.
Finalement, l'amendement des Républicains, comme tous les autres, seront rejetés. Le vote final aura lieu lundi à Versailles. Le Parlement va s'y réunir en congrès.
Le président de la République qui s'est félicité sur les réseaux sociaux de ce vote historique. Donc, je me suis engagé à rendre irréversible la liberté des femmes de recourir à l'IVG en l'inscrivant dans la Constitution. Après l'Assemblée, le Sénat fait donc un pas décisif dont je me félicite. Pour le vote final, je convoquerai le Parlement en congrès le 4 mars. Ce qui signifie ce soir, avant qu'on rentre dans le fond de la question, Johan Usaï, que à l'heure où nous nous parlons, le droit à l'IVG n'est pas encore inscrit dans la Constitution. Il reste une étape, le président l'a indiqué, ce sera le 4 mars.
Le 4 mars, c'est-à-dire lundi prochain, lundi. Donc ça va aller extrêmement vite. Le Parlement réuni en congrès, donc sénateurs et députés vont siéger à Versailles. Il faut les 3/5 du Parlement pour l'inscription définitive dans la Constitution. Compte tenu des votes aujourd'hui au Sénat, le Sénat a adopté très largement, seulement 50 votes contre. C'était vraiment un vote extrêmement favorable. C'est une surprise que le vote soit vraiment aussi favorable. Et l'Assemblée nationale qui a adopté aussi largement, donc il n'y a pas de suspense. Lundi, ce sera gravé dans le marbre et inscrit de manière définitive dans la Constitution.
Tatiana Renard-Barzac, d'ailleurs, pour rebondir sur ce que vient de dire Johan, ça vous a surpris ce vote, cette très large majorité, parce qu'on s'attendait à des débats, en tout cas un vote un petit peu plus serré. Mais c'est donc une très très large majorité qui l'emporte.
Si on regarde l'histoire des votes de droite par rapport à des réformes sociétales, oui, il faut être tout à fait honnête. La loi Veil, majorité de pour, mais beaucoup de contre de la droite. Mm-hmm. Ensuite, la loi Badinter abolissant la peine de mort, idem. La dernière loi en date, la loi bioéthique pour l'ouverture de la PMA pour toutes les femmes, idem. Donc oui, cela dit, il y a une évolution de la part du Sénat, même si Gérard Larcher a eu les propos qu'il a eus et qui ont été largement condamnés Et je cautionne tout.
Je les rappelle rapidement. Il y a quelques semaines, il disait, en parlant de cette entrée dans la Constitution, de l'IVG, si elle était menacée, croyez-moi, je me battrais pour qu'elle soit maintenue. Mais je pense que la Constitution n'est pas un catalogue de droits sociaux et sociétaux. Le président du Sénat, qui donc n'a pas été suivi par l'ensemble de la droite.
Mais d'abord, bravo, parce qu'en fait, il y a une liberté de vote, de la part, il faut le dire, justement du groupe de droite et de la part de Bruno Retailleau pour ses troupes. Et en fait, je constate que les sénateurs ont su en fait évoluer avec leur temps et être à l'écoute de la société, mais aussi, puisque c'est beaucoup ce qui signe dans les couloirs, de leurs femmes et de leurs filles. Et c'est bien parce qu'ils ont compris que c'était une évolution sociétale tout à fait nécessaire, qui était primordiale, que le monde entier nous regardait, puisque nous serions donc les premiers pays à faire entrer ce droit dans notre constitution. Et donc, je crois qu'en cela, ils ont su montrer qu'ils n'étaient pas de vieux réacs conservateurs, mais qu'ils étaient progressistes et qu'ils savaient s'adapter à leur temps. Et puis, par ailleurs, je pense qu'ils avaient aussi en tête, souvenez-vous Catherine Vautrin, qui a dû faire son mea culpa lorsqu'elle est rentrée au gouvernement, parce qu'elle s'était justement opposée au mariage pour tous, oui, et qu'elle a reconnu qu'elle n'avait pas su être à l'écoute de la modernité et de son temps. Je pense que là, on a eu exactement le même exemple ce soir avec ce vote.
Karim Abric, on peut parler d'une séquence historique, d'un symbole fort. Les mots sont adéquats.
Oui, je pense que tout à fait, parce que ça envoie un message aux Français, aux Françaises et puis au reste du monde que finalement, cette liberté pour les femmes, ben, c'est un droit. Donc, c'est vraiment... Ça existait déjà, c'était déjà un droit pour les femmes ici, mais de le mettre dans la Constitution, qu'est-ce que ça fait? Oui, c'est une question de symbole et ça rajoute une protection parce que si éventuellement, pour X, Y raison, dans plusieurs années, il y aurait quelqu'un ou un parti ou quoi que ce soit qui aurait cette idée de revenir là-dessus, même si en ce moment, ce n'est pas la situation, eh bien, pour se retrouver avec 3/5 après au Parlement, ça complique beaucoup les choses. Donc, ça fait office, oui, de symbole très fort, très puissant. Je dirais même symbole féministe aussi, il faut le dire. La France va peut-être donner des idées à d'autres pays dans le monde. Donc, je pense que oui, c'est quelque chose d'historique. Mais je ne suis pas si étonnée...
Et c'est l'idée d'une mesure comme celle-là aussi, d'être aussi précurseur au regard du reste du monde.
Et peut-être en terminant, je ne suis pas si étonnée des votes, parce qu'on peut dire, oui, dans les débats, il y a toutes sortes de choses. Le vote qui s'est produit, on a dit qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes tellement à droite qui ont voté, finalement. Moi, je ne suis pas si étonnée, parce que en 1975, c'était une chose. 2024, aujourd'hui. Et j'ai l'impression qu'entre les débats et au moment où vous votez, vous ne voulez pas avoir peut-être ce saut à vie de cette personne qui, finalement, s'est opposée aux droits des femmes. Donc, je pense qu'en 2024, quand vous faites une proposition comme celle-là, finalement, le vote allait en ce sens.
On a bien compris, la majorité est très large, donc en faveur de cette inscription dans la Constitution. Pourtant, les échanges ont été vifs. Illustration, vous en avez vu un aperçu, mais écoutez en longueur cet échange. Donc pendant les débats avant le vote, entre le sénateur Ravier et la sénatrice Vogel.
Chers collègues du centre et de droite, ne cédez pas à ce qui n'est qu'une opération d'agit-prop de la gauche et à son chantage.
Veuillez conclure. Je vous demande de conclure. S'il vous plaît. Je vous demande de conclure.
La gauche ne fait qu'instrumentaliser les soubresauts de la politique américaine.
Je vais vous dire une chose, monsieur Ravier. Vous avez un seul mérite, c'est la constance que vous avez à pouvoir nous démontrer que nous avons raison de vous donner tort. Comme nous le faisons d'ailleurs à chaque fois. On ne vous a pas empêché de parler.
Assieds-toi et ferme-la.
Je ne vous ai pas empêché de parler, monsieur Ravier. Asseyez-vous maintenant, votre temps de parole est écoulé.
Jean-Claude Dacier, en entendant cet échange, on se dit... Quand bien même en 2024, ce droit n'est pas menacé en France, il y avait quand même urgence à le sanctuariser, ce droit à l'IVG.
Je ne sais pas, mais Monsieur Ravier était le seul à droite à mener ouvertement la bataille contre cette entrée de l'IVG dans la Constitution. Derrière le président du Sénat, Monsieur Larcher, derrière Monsieur Retailleau, je ne les ai pas entendus. Je ne sais pas s'ils sont dans les 50 qui ont voté contre.
On a le détail des votes, normalement.
On verra ça, je pense, demain matin. Mais bon, c'est un symbole, vous avez raison de le souligner, c'est un symbole très fort, c'est une grande victoire des féministes. Je ne suis pas sûr que ça change grand-chose dans la pratique. Il y a, moi, des chiffres quand même qui m'inquiètent par rapport à ce que disait Mme Veil il y a quelques années, je crois que c'était en 75. J'ai regardé les chiffres tout à l'heure, il y a eu 234 000 avortements en France en 2022. 17 000 de plus qu'en 2021. Là, il faut regarder un peu parce que il y avait l'épidémie. Donc, je ne sais pas si ces chiffres sont significatifs. Je trouve quand même que c'est beaucoup et que l'avortement est peut-être, je dis bien peut-être, je suis prudent. Moi, j'ai bagarré il y a quelques années, quand j'étais encore en Europe, pour que l'avortement soit enfin autorisé grâce à la loi La Veille. Donc je suis tranquille pour marquer aujourd'hui, non pas des réserves, mais quelques interrogations. Je ne sais pas si l'avortement, la pratique de l'avortement n'est pas en train, et ce serait dommage, de se banaliser un peu, contrairement à ce que pensait Mme
Franchement,
Veil.
Je pense que c'est une marge. Mais c'est une marge, ceux qui,
honnêtement, ceux qui prennent l'avortement comme un compte. Je pense que ce n'est pas quelque chose de neutre, et que, bon, voilà. C'est maintenant quelque chose de garanti. Encore une fois, il y aura peut-être le débat à partir de demain, peut-être même dès ce soir, sur la clause de conscience des médecins. Mmh. Est-ce qu'elle subsiste malgré tout, malgré cette entrée de la loi le 5 mars, c'est-à-dire lundi, dans la Constitution ? Nous verrons. Ça, c'est un vrai débat. Mais je vais vous dire, et je termine là-dessus. Allez-y. Très rapidement. J'ai regardé sur TF1 ce soir à 20h un reportage sur l'Afghanistan. J'en ai pleuré parce que le sort des femmes est effroyable là-bas. Et je n'entends personne. Et je n'entends pas non plus les organisations féministes, mais je leur ferai pas ce reproche. Mais honnêtement, que nos politiques, que les Américains qui sont partis, en échange de quoi il y a moins de culture du pavot en Afghanistan qu'il y en avait à l'époque, le sort de la population féminine dans ce pays est une horreur absolue. Alors félicitons-nous aujourd'hui que nous donnions l'exemple, c'est très bien. Mais regardons ce qui se passe un peu au-delà de chez
nous. L'un n'empêche pas l'autre, Jean-Claude.
L'un n'empêche pas l'autre. Je voudrais un peu plus de mobilisation sur le sort tragique des femmes dans ce pays.
Mais c'est bien de le rappeler, de le dire. Tatiana, je sais que vous voulez réagir. Je voudrais juste qu'entendre le garde des Sceaux, parce que lui aussi a réagi à ce que disait Stéphane Razier.
Point très
Alors, on met juste Éric Dupond-Moretti, et je vous promets que vous reprenez derrière. Éric Dupond-Moretti, choqué par les propos de Stéphane Razier, qui lui a fait savoir.
Monsieur le sénateur Razier, vous avez été, me semble-t-il, contre-productif à la cause que vous soutenez, car un certain nombre de sénateurs qui se demandent si l'IVG est menacée ont eu une réponse en vous entendant. C'est pas plus compliqué que ça. Merci pour votre intervention. Elle était très utile. Elle illustre qu'il y a encore aujourd'hui des gens qui souhaiteraient s'opposer à l'IVG. C'est la raison pour laquelle il faut protéger l'interruption volontaire de grossesse, cette liberté fondamentale pour les femmes.
Tatiana Arnard-Barzac, une remarque et puis on fait tourner la parole.
Non, trois, si vous voulez bien.
Alors, trois, si vous voulez.
Très rapidement. Non, l'IVG n'est pas banalisé, pardon, cher Jean-Claude, mais une femme sur trois aura recours dans sa vie à l'IVG pour des raisons parfois dramatiques et dans des cas parfois dramatiques. Et il se trouve que ça concerne toutes les femmes. Ça peut concerner nos sœurs, nos filles, nos mères. Ça concerne n'importe qui, de n'importe quelle catégorie sociale.
Tous les milieux sociaux, ouais.
Et donc, en cela, c'est extrêmement important. Deuxième point, il y a aujourd'hui, ça va rentrer a priori, je l'espère, dans la Constitution, avec ce vote du Congrès. A priori, il est acquis, oui, il n'y a pas de doute.
Problème.
Et c'est une très bonne chose, mais ça, il faut rester vigilant. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une difficulté d'accès pour toutes les femmes, partout sur le territoire français. Pourquoi ?
Oui, mais le constitutionnaliser n'en rend pas un accès plus facile. Et c'est un travail
ça change
encore
rien,
et un effort de plus à faire.
Il n'y a pas de banalisation non plus pour cette raison, parce qu'il y a un problème d'accès,
ça, c'est terrible,
d'accès à l'IVG,
ça, c'est
sur le territoire partout, notamment dans les zones rurales, parce que les centres ferment. Parce que parfois, dans certains départements, il n'y a qu'un médecin qui pratique l'IVG, voire pas du tout.
C'est vrai.
Et parce qu'il y a des raisons économiques qui font que certaines femmes ne peuvent pas aller dans des cliniques privées. Et que parfois, il y a des délais d'attente colossaux dans les hôpitaux. Mmh. Et que parfois même certaines, 5000 femmes par an, doivent aller à l'étranger parce qu'elles
ont dépassé le délai légal. Mais j'ai le sentiment que ce sont deux sujets.
Non, c'est
sanctuariser l'IVG est un sujet qui fait honneur à la France et qui se prémunit contre un futur hypothétique. En revanche, ça ne change rien à l'accès qui est un scandale dans ce pays.
Notre nombre de médecins, hélas.
Il faudra rester vigilant justement sur ce sujet. Et on parlera peut-être justement de la clause de conscience qui peut aussi être une difficulté d'accès. Et si j'ai l'occasion, je vous explique pourquoi. Et dernière chose, pour répondre à ce que disait, ou plutôt pour poursuivre ce que disait Jean-Claude. Oui, il y a 47 000 femmes dans le monde, chaque année selon l'OMS, qui meurent à cause d'IVG, qui sont non médicalisées parce qu'elles doivent le pratiquer dans la clandestinité absolue. Je pense aussi à nos grand-mères qui devaient le faire avant, à notre époque, dans des voitures avec des épingles à nourrice. Voilà.
Pierre Gentil.
Je rappelle juste ça. Et donc je dis combien c'est en effet absolument essentiel.
Et c'est pour ça que la loi Veil a été une bénédiction, c'est une
évidence. Et une avance, c'est certaine. Pierre Gentil. En effet, le 28, d'ailleurs, je sais plus, le 28 février 2024, le droit à l'IVG n'est pas remis en cause en France. Personne ne peut dire le contraire. Il y a tellement de remises en cause à travers la planète que le signal envoyé, persistons à le dire, est un signal fort et tout à l'honneur de notre pays.
Mais attendez, quel est le but ici?
On fait du droit essentiel.
Un droit fragile.
Attendez, j'ai pas encore commencé.
Ah, mais vous posez une question. Donc.
Non, mais je pose une question, je vais faire
rhétorique.
Je suis comme Nicolas Sarkozy, vous voyez. Mais c'est-à-dire qu'on fait du droit en France avant tout pour l'espace français, pour les Français. Après, le message au monde, bon, écoutez, si vous voulez, on a vu ce qui s'est passé aux États-Unis, mais je veux quand même vous faire un petit rappel. Premièrement, depuis le début des années 2000, le Conseil constitutionnel a déjà donné valeur constitutionnelle à la loi Veil. Donc on va inscrire cette loi dans la Constitution dans le marbre, alors qu'en réalité, elle a déjà valeur. Seulement, voilà, le Conseil constitutionnel a dit que c'était une liberté. Maintenant, on veut passer à une garantie, c'est-à-dire on veut aller encore plus loin. Mais je rappelle que cela a déjà valeur constitutionnelle, premièrement. Deuxièmement, moi, c'est ce qui me chagrine en tant que juriste, c'est que la Constitution, on va finir par oublier ce que c'est. La Constitution... Excusez-moi, ça a été dit, je crois, dans les débats parlementaires. Ça doit pas être un catalogue, si vous voulez. La Constitution, avant toute chose, c'est la loi fondamentale qui fixe les règles d'organisation du pouvoir en France. C'est ça, la Constitution. Depuis une cinquantaine d'années, nous voyons, depuis 71, que la Constitution devient un fourre-tout général. Peut-être aussi parce qu'il y a le droit européen qui a pris un peu de place sur la loi. Donc on dit, on va tout mettre dans l'étage constitutionnel. Et enfin, excusez-moi, moi je vais vous dire une chose.
81% des Français étaient favorables à cette inscription dans la Constitution, Pierre Dantier.
Non mais attendez, c'est très intéressant ce que vous dites, c'est pas bien de rebondir sur quelque chose qui n'a pas été mentionné ici. L'article 89 de la Constitution qui prévoit effectivement l'inscription, la modification de la Constitution, ce qu'on va faire ici pour l'inscription de l'IVG, prévoit deux modes de fonctionnement. Le premier, et c'est celui qui a été pris, c'est le Congrès, c'est-à-dire on passe par le Parlement. Mais un deuxième, et qui était d'ailleurs celui initialement, parce que c'est une proposition de loi, c'était de passer par un référendum. Donc si les Français sont majoritairement, effectivement, pour la constitutionnalisation, curieusement, là, tout le Parlement dit non, on va faire ça entre nous, on ne passe pas au référendum.
Les parlementaires sont les représentants de la nation.
Puisqu'à l'origine, c'est une proposition.
Oui, mais alors, le référendum, sont pas des...
L'article 3, nous dit que la souveraineté du peuple s'exerce par la voix de ses représentants et par référendum.
Oui,
voilà, des référendums, on n'en fait plus. Et c'était au départ une proposition de loi. Une proposition de loi qui devient un projet de loi pour qu'on passe par le Congrès. Moi, je trouve ça dommage.
Il est heureux qu'il n'y ait pas de référendum sur ce sujet parce que les sondages sont d'abord extrêmement clairs. 81% des Français y sont.
Le
débat est tranché. Et puis, en plus, un référendum sur l'IVG, on va rouvrir un débat où on va donner.
Mais c'est dangereux d'ouvrir un débat?
Non, mais moi, je n'ai pas envie de.
Vous n'avez pas envie, c'est votre avis.
Oui,
c'est un débat.
Mais précisément, je vous donne mon avis.
Ah oui, je
mon avis est que je n'ai pas envie, justement, de voir tous ceux qui manifestent dans les rues, les Civitas et compagnie, nous expliquer à longueur de journée pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas inscrire l'IVG dans la Constitution.
Ça donc, relève de leur liberté de conscience. Moi, je ne suis pas d'accord.
C'est pas comme si on modifiait la Constitution tous les quatre matins.
On a pas besoin.
Ça fait 14 ans qu'on n'a pas touché la Constitution française. Donc c'est pas non plus un catalogue où on met tout et n'importe quoi.
2008, oui, c'est ça.
2008, ça fait 14 ans.
Voilà, donc on n'a pas besoin d'ouvrir un débat. On n'a pas besoin d'ouvrir un débat de ce type-là dans notre pays.
Non, c'est après.
Allez-y, pardon. Non. Ça fait 16 ans qu'on a
pas. Je disais, on n'a pas besoin d'ouvrir un débat de ce type-là dans ce pays. On connaît le résultat du référendum. Les Français sont très, très majoritairement favorables. On n'est pas sur du 50-50 ou 45-55. 81%, c'est très clair. Voilà, arrêtons de cliver le pays plus qu'il ne l'est déjà.
On ne clive pas en demandant aux gens leur avis, encore une fois.
Regardez, leur avis, ils sont sous vos yeux, leur avis, Pierre.
Oui, mais... écoutez, non mais attendez, à ce moment-là, vous savez, on supprime les élections, on laisse des sondages pour le premier tour de la présidentielle et le second tour. Non mais encore une fois,
je veux dire, ça vient pas d'être fait par décret présidentiel, sont les représentants de la nation qui ont voté.
Excusez-moi, c'est quand la dernière fois qu'on a eu un référendum en France?
2005.
Ok, ils ont dit quoi les Français? Est-ce qu'on leur a soumis?
Oui, mais là, c'est un raisonnement par la
Je vous dis une chose, si on veut... Moi, ici, la question, c'est pas de pour ou contre, c'est une question démocratique, d'accord? Si on veut essayer de remettre un petit peu les Français au cœur du pouvoir. Enfin, je vous rappelle quand même qu'on est dans un régime démocratique, dans une république. Je rappelle des banalités.
Mais attendez, je comprends
pas. On peut passer parfois aussi
par un référendum. Les sénateurs,
je répète l'article de la Constitution.
Je comprends pas du tout.
La souveraineté du peuple s'exerce par la voix de ses représentants et par référendum. C'est la Constitution.
Donc la procédure vous a choqué, là,
Non, les mots sont gros. Je trouve qu'on aurait pu avoir l'occasion ici, tout simplement, de passer par un référendum.
Vous êtes aussi peu clair que Stéphane Ravier tout à l'heure, lorsqu'il intervenait à la suite de ce vote, pardon pour la comparaison, mais cela dit, c'est vrai, c'est-à-dire que là, vous faites du en même temps, c'est-à-dire que j'ai pas très bien compris, vous êtes contre l'entrée de l'IVG dans la Constitution ou contre l'IVG tout court?
Moi, je suis pour la loi Veil, je vous dis très simple. Je suis pour la loi Veil, vous me posez la question, je vous réponds. Je suis pour la loi Veil, je suis contre la constitutionnalisation de l'IVG, effectivement, parce que la Constitution, je le répète, ce n'est pas un catalogue de droits, c'est la loi fondamentale.
Alors, s'il y avait eu un référendum, et que les Français avaient dit oui.
Bah très bien, mais c'est très bien.
Est-ce que quelqu'un peut me dire ce soir ce que ça va changer concrètement sur le terrain?
Rien du tout.
C'est un symbole fort. Mais là où le bas blesse, c'est l'accès.
Pardon.
Non mais Julien, laissez-moi quand même.
Je suis désolé, les amis, pas du tout. Soyons apaisés.
Il n'a rien dit là.
Ce débat ne mérite pas qu'on s'en plaigne parce qu'a priori il y a quand même un consensus autour de ce droit fondamental. Donc restons apaisés les uns avec les autres. Michael,
c'est pour ça que
Michael qui n'a pas encore pris la parole.
Je me permets de dire que quand même sur ce sujet l'entrée dans la Constitution, moi, j'ai pas d'avis tranché et je n'ai pas envie d'en avoir. Ça me semble être un chiffon rouge politique. Pour moi, ça n'a aucune utilité, ça n'a aucune portée concrète. Je trouve beaucoup plus intéressant ce qu'a dit Tatiana tout à l'heure, c'est-à-dire rendre effectif l'accès à l'IVG plutôt que d'en faire une espèce de symbole. Bon, bah après, tant mieux. Si les
le
gens
faire entrer dans la Constitution avant qu'il ne soit trop tard, c'est peut-être
mais Julien, personne ne s'y oppose et on s'y opposera pas.
N'insultons pas l'avenir. Regardez les montées.
Cher ami, personne n'a répondu à mon interrogation.
Dans certains pays. N'insultons pas l'avenir et prenons des précautions avant qu'il ne soit trop tard.
N'insulte pas l'avenir, mais dans l'état actuel de l'opinion qui est archi majoritairement pour la loi Veil, et tant mieux, je trouve ça un peu ridicule de voir certains hommes politiques qui montent à la tribune en pensant qu'ils font un acte historique alors qu'il n'y a pas plus consensuel que ce qu'ils sont en train de faire. Voilà.
Est-ce que quelqu'un a un avis à me donner sur la clause de conscience des médecins? Est-ce que l'entrée de l'IVG dans la Constitution modifiera-t-il ou non cette clause de conscience? Ça m'intéresse de le savoir.
Je vais laisser l'avocat répondre sur le point de vue juridique. Moi, je vais répondre d'un autre point de vue, qui est le suivant. Aujourd'hui, le problème, je me souviens très bien d'une interview d'Agnès Buzyn, qui expliquait qu'elle avait demandé justement, à la suite de propos du président des syndicats, du syndicat des gynécologues, qui avait fait une comparaison assez houleuse, et plutôt même honteuse en fait, qui est inadmissible entre les homicides et l'IVG, qui avait expliqué, moi j'aimerais un rapport en fait, pour m'expliquer combien exactement aujourd'hui il y a de médecins qui ont recours justement à la clause de conscience pour refuser de pratiquer des IVG. Rapport qu'elle n'a jamais obtenu et qui n'a jamais, jamais, jamais été fait. C'est très intéressant parce que c'est une sorte de zone grise en fait aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que, par exemple, en Italie, il y a une étude qui a été faite par le ministère de la Santé italien qui montre, je vous donne un chiffre très précis, qu'aujourd'hui, 64,6% en 2020 des gynécologues avaient objecté leur clause de conscience pour ne pas justement pratiquer d'IVG. C'est colossal, 64,6%. Aujourd'hui, il y a 2,9% de généralistes et de gynécologues et 3,5% de sages-femmes, puisque depuis une loi assez récente faite par Aurélien Rousseau, les sages-femmes peuvent pratiquer l'IVG, mais dans certaines conditions et même médicamenteuses, mais chirurgicales aussi, pardon. Seuls 2,9% de généralistes et gynécologues et 3,5% de sages-femmes pratiquent l'IVG. Donc, il y a quand même une vraie question qui est la suivante. C'est est-ce qu'aujourd'hui, je vais laisser de côté les cliniques privées. On va parler des hôpitaux publics. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les hôpitaux publics, c'est normal qu'il y ait des chefs de service qui soient opposés à l'IVG et qui fassent la pluie et le beau temps? Un rapport parlementaire de 2020 pointait cette problématique du doigt en disant c'est pas normal aujourd'hui qu'il y ait des chefs de service qui soient opposés à l'IVG, qui puissent justement être dans ces services-là.
C'est pour ça.
Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes, du coup,
c'est difficile.
C'est pour ça qu'avec un signal, Jean-Claude, avec un signal aussi fort envoyé par nos chambres de représentants aujourd'hui, la France doit se montrer à la hauteur de ce vote et doit donner un accès plus sécurisé parce que les IVG non sécurisés sont un fléau encore en France en 2024.
Permettez-moi juste le dernier mot. C'est une précision, c'est simplement une précision juridique. Ce n'est pas que symbolique de faire entrer l'IVG dans la Constitution. Parce que, et c'est ce qu'on cherche à faire, si demain on voulait supprimer la loi Veil, je parle d'aujourd'hui, là maintenant, avant l'entrée dans la Constitution, il suffirait de passer par une autre loi. Là, ce qu'on veut quand on l'ancre dans la Constitution, ça veut dire que si demain on fait passer une loi, cette loi sera jugée par le Conseil constitutionnel comme contraire à la Constitution.
C'est très bien.
Donc ça veut dire que ça donne une valeur supérieure. Non, mais je précise simplement.
Oui,
ce n'est pas que symbolique.
C'est aussi une manière de verrouiller encore. Et c'est la meilleure nouvelle pour les femmes.
Non, mais alors justement, quand,
vraiment,
quand, certains,
la...
quand certains disent ça sert à rien, excusez-moi, ça sert pas à rien.
C'est ce que
non,
c'est ça. Nous devons nous féliciter et être fiers de ce qui vient de se passer.
Je n'ai pas eu ma réponse à la clause de conscience. Nous verrons ça la semaine qui vient.
On verra, on en parlera
lundi. Tout à fait honnête. Intellectuellement, la clause de conscience ne fait pas tout parce qu'il y a la question des déserts médicaux, la fermeture
des
et il y a la question aussi des médecins.
Suivez-moi, s'il
vous plaît. Des médecins qui ne pratiquent pas forcément l'intervention chirurgicale mais que médicamenteuse pour des raisons de risque aussi. Voilà.
Tout autre sujet, vraiment. Alors là, on saute du coq à l'âne, comme on dit, mais un sujet un peu people. Jérôme Béglé, bonsoir. Merci d'être avec nous.
Bonsoir.
Vous nous sortez un petit scoop là pour un Paris Match demain quand même. Il va pas passer inaperçu ce papier, cette interview Paris Match qui sort demain comme tous les jeudis. Alors à la une, vous le voyez au cœur de l'écran, hein, Camilla Parker Bowles. Mais c'est le bandeau, c'est en haut à droite que ça se passe. Jérôme, ce qui nous intéresse là ce soir, c'est que vous avez recueilli les confidences de Tiphaine Auzière, la fille de Brigitte Macron. Elle se raconte à l'occasion de la sortie de son livre Assise. Elle revient 30 ans plus tard sur le scandale provoqué à l'époque par l'histoire d'amour entre sa mère, Brigitte, donc, et Emmanuel Macron. Jérôme, on va lire quelques extraits ensemble, mais d'abord une petite question. C'est un sujet qui a été longtemps tabou et qu'elle aborde volontiers. Aujourd'hui, elle n'avait que 10 ans quand sa mère, Brigitte, donc, a entamé une relation avec son élève de l'époque, Emmanuel Macron.
Alors, on a rencontré Tiphaine Auzière parce qu'elle sort effectivement un livre. On a fait un grand portrait d'elle. Elle parle de sa vie de jeune femme. Elle est née en 1984. Elle parle de sa profession d'avocat et elle parle évidemment du moment le plus connu sans doute pour les Français. C'est lorsqu'en 1994, elle a donc 10 ans, ses parents se séparent et que sa mère, Brigitte Macron aujourd'hui, qui a 41 ans, commence à entretenir une relation avec un homme qui en a 17. Bon. Et elle dit, elle a cette phrase qui est assez forte, ce n'était pas encore l'ère des réseaux sociaux, mais on était dans une petite ville de province, tout se sait. Elle raconte un peu les médisances, les attaques, les jugements dont elle, sa grande sœur et son grand frère ont été un peu l'objet à cette époque.
Je lis l'intégralité de ce passage que vous venez de nous résumer. Une séparation, c'est douloureux. Donc là, elle parle du divorce de Brigitte avec son père, avec le père de Tiphaine, avec une particularité comme celle-là. Donc là, elle parle de la rencontre entre Brigitte et Emmanuel Macron. C'est encore plus douloureux. Et ce que nous avait dit, les médisances, les jugements, les attaques, ce n'était pas encore l'ère des réseaux sociaux, mais on était dans une petite ville de province, Amiens, donc à l'époque. Et tout se sait. On comprend que cette histoire de relation interdite à cette époque est dans une ville comme Amiens, ça a été une vraie source de souffrance pour elle. Et encore une fois, hein, ce qui nous surprend, c'est qu'elle l'exprime volontiers. Je ne sais pas si elle l'a déjà exprimé d'ailleurs dans les médias.
Comme ça, non. Alors, ça a été sans doute une souffrance, une douleur sur le moment. Maintenant, elle l'a intégré. Évidemment, le temps a passé, elle a fait une force. Elle dit dans l'interview qu'elle a un père et un beau-père adoré, qu'elle met donc tous les deux sur le même plan. Je rappelle que son père est mort. Son beau-père, c'est donc Emmanuel Macron. Alors, il y a des choses étonnantes. Par exemple, on apprend que, je l'ignorais complètement, Emmanuel Macron était dans la même classe que sa grande sœur, Laurence.
Ah.
Et évidemment, de temps en temps, sonnait à la porte l'étudiant qui ne venait pas forcément pour voir sa copine de classe, mais pour voir peut-être la mère de la copine de classe. Voilà. Mais elle a tout à fait digéré ça. Elle en parle non plus sous le coup du choc ou de l'émotion, mais avec comme une jeune femme qui a totalement digéré la chose, qui l'a comprise, qui l'a évidemment acceptée, et qui en a fait une force, et qui a grandi avec.
J'en ai tiré, je lis ce deuxième extrait, Jérôme, j'en ai tiré l'ouverture d'esprit, la volonté d'avancer sans écouter les bruits périphériques et une plus grande tolérance. Je sais que dans ces moments, il faut se centrer sur l'essentiel, malgré les peines donc qu'elle traverse à l'époque. Tiphaine Auzière se dit admirative également, dont la manière dont sa mère et Emmanuel Macron, je la cite encore, ont tenu debout ensemble malgré les critiques sur leur différence d'âge. Aujourd'hui, il y a vraiment une fierté en fait pour elle d'avoir Emmanuel Macron comme beau-père et d'avoir su traverser cette épreuve de l'époque.
Oui, bah, des couples qui se séparent, même quand les enfants sont en bas âge, ça existe malheureusement très, très, très couramment en France. En revanche, effectivement, là, l'histoire elle est particulière dans la mesure où il y avait une grande différence d'âge entre la mère et le père, le beau-père, et que Madame Brigitte était la prof d'Emmanuel Macron. Mais elle, encore une fois, elle a tout à fait digéré, elle en fait une force, elle dit que ça l'a construit. Que si elle est devenue ce qu'elle est devenue aujourd'hui, et sans doute si elle est devenue avocate, si elle défend la veuve et l'orphelin, si elle défend des victimes, c'est aussi parce qu'elle a traversé cette phase, pas forcément heureuse, pas forcément agréable sur le moment, mais que tout le monde a été, dans la famille proche, s'est serré les coudes, et que finalement ça a donné une famille reconstituée, harmonieuse, heureuse, et aimante et aimée.
Et puis le dernier extrait que je voulais lire également, c'est que là, à l'aune désormais, à notre époque des réseaux sociaux, il y a d'autres rumeurs ou insultes qui peuvent faire mal également à cette famille et sur lesquelles elle revient. J'ai une inquiétude, dit-elle, sur le niveau de la société. Quand j'entends ce qui circule sur les réseaux sociaux à propos de ma mère qui serait un homme, l'aplomb de ce qui est affirmé, le crédit qu'on donne à ce qui est proclamé, tout le monde peut dire n'importe quoi sur n'importe qui et il faut du temps pour le faire retirer. Jérôme, c'est vrai que lorsque quelqu'un choisit la lumière, et en l'occurrence la plus intense lumière possible avec Emmanuel Macron, c'est tout l'entourage qui se retrouve ébloui, qui doit gérer ça. Vous direz que le statut d'Emmanuel Macron a rendu ce clan plus fort encore ?
Oui, le statut actuel et puis surtout toutes les années antérieures. L'histoire entre Brigitte et Emmanuel Macron, elle n'est pas banale. Ça va de soi. Et c'est cette histoire qui a construit les trois enfants et ultérieurement les petits-enfants que les trois enfants de Brigitte ont eu. Donc voilà, c'est une très belle histoire et elle en parle vraiment avec une grande délicatesse et avec des mots vraiment pesés qui permettent de voir comment on grandit avec ça et comment on l'intériorise et qu'on n'en fait pas une vengeance, mais une force sur soi et une sensibilité différente pour juger une société, un pays et les autres.
Un dernier petit mot, Jérôme, la belle-fille du président de la République, vous nous l'avez dit d'ailleurs, assure avoir de très bons rapports avec son beau-père adoré, c'est comme ça qu'elle l'appelle dans votre interview. Quel type de relation ils ont ? Ils passent beaucoup de temps ensemble ? Vous avez pu en savoir un petit peu plus sur leur rapport ?
On les a vus d'abord à chaque fois qu'il y avait les cérémonies à l'Élysée, Tiffaine Osier est souvent là. On sait que le clan aime se retrouver notamment au Touquet, qui est un peu le centre de la famille. Et puis, elle a tenté une carrière en politique également. Elle a été députée, elle a été candidate pour être députée suppléante dans le fief familial. Donc ça donne effectivement une harmonie dans cette famille que les prémices de cette histoire d'amour ne laissaient pas forcément augurer.
Beau-père adoré a été consulté avant de se livrer comme ça sur l'intimité de cette famille ?
Alors, je peux vous dire que le beau-père et la mère ont lu le livre avant publication, évidemment.
Parce que le livre, alors vous parlez du livre de Tiffaine, le livre qui est un roman, je crois, vous m'arrêtez, mais qui raconte une histoire d'amour avec une très grande différence d'âge entre les deux protagonistes.
Voilà, pas seulement, mais il y a aussi ça. Alors, n'y voyez pas forcément un livre à clé, c'est aussi un livre sur la profession d'avocat et sur ce qui s'y joue. Mais effectivement, le texte a été relu avant et je me suis laissé dire qu'il n'y a aucune modification substantielle qui ont été demandées par les parents et beaux-parents.
C'est entendu. Merci Jérôme Béglé d'avoir été avec nous. Je sais que vous êtes un couche-tôt, vous avez fait l'effort d'être avec nous. Ça, c'est, je saurais m'en souvenir. S'il y a une rupture de stock de la Pléiade quelque part, vous savez où allez vous servir. En tout cas, chers amis téléspectateurs. Oui, ouais, il y a de quoi lire là. On est bien. Très belle bibliothèque. Vous n'avez pas tout lu ?
Non.
vous avez la nuit pour. On se retrouve bientôt, j'espère, Jérôme. Merci beaucoup. Paris Match dans tous les kiosques demain avec cette interview qui fera parler et qui va certainement très bien se vendre, j'en suis sûr, dans les kiosques.
Merci beaucoup, bonne soirée à vous.
Merci Jérôme, à très vite. Un petit commentaire ? Très beaucoup, réalisé par Paris Match. C'est vrai qu'on en apprend
beaucoup,
un petit peu plus.
Rapidement, une leçon de résilience, vraiment. Deuxièmement, un message aussi, parce qu'il y a tellement de familles recomposées quand on explique que la recomposition est un enrichissement. Ça part, je pense, à plein de familles. Et puis, un petit scoop, j'ai découvert le surnom qu'elle donnait à son beau-père, c'est l'OVNI.
Voilà, L'OVNI ?
Tiffaine Osière appelle Emmanuel Macron l'OVNI.
Ah, c'est pas dans le Paris Match, ça, aussi ?
Si, c'est ce que j'ai lu, en tout cas, dans les articles qui relatent
je l'ai pas vu
cela, et où elle fait cette dédicace dans ce livre, donc à sortir, à paraître, à Emmanuel, qui m'a montré que rien n'est impossible. Voilà. Je trouve que c'est un beau témoignage, assez inattendu, et je pense qu'elle a dû beaucoup souffrir, en effet, parce que les jugements devaient être extrêmement perturbants pour la jeune fille qu'elle était à l'époque. Et donc je trouve que, enfin chapeau, je tire mon chapeau, bravo.
On reparle d'Emmanuel Macron dans un court instant puisqu'on va évoquer ce sondage qui les Français sont très largement contre l'envoi de troupes françaises en Ukraine, comme l'a évoqué, il a évoqué cette hypothèse le président de la République hier, ou avant-hier plutôt.
Hein, avant-hier.
Avant-hier. 23h01, pardon pour le petit retard, Maureen Vidal, l'essentiel de l'actu, et donc on parle de ce sondage autour des propos du chef de l'État sur une intervention des troupes occidentales en Ukraine. Maureen.
Au procès du meurtre d'Éric Masson, ce policier tué par balle en 2021 à Avignon, les parties civiles se disent dégoûtées face aux déclarations du principal accusé, Ilias A. Deux jours après ses aveux, il a expliqué avoir tiré sur Éric Masson sans savoir qu'il était policier. Il le pensait dealer, concurrent, selon ses mots. Une femme centenaire victime d'un violent vol à l'arraché aux Ulis en Essonne. Les faits se sont déroulés lundi matin sur le parking du centre commercial Ulis 2. Les agresseurs étaient à bord d'une voiture. Le conducteur est brusquement sorti pour arracher le sac à main de la dame âgée de 99 ans. Celle-ci est tombée au sol et s'est fracturée le bras. Les auteurs ont pris la fuite. Une enquête a été ouverte. Enfin, les députés européens ont adopté la réforme du permis de conduire, mais ont écarté la proposition d'une visite médicale pour l'obtention du permis et son renouvellement tous les 15 ans. Une mesure vivement critiquée, notamment par la France. Plus de 20 000 personnes meurent chaque année sur les routes de l'Union européenne et plus de 160 000 sont gravement blessées.
Merci Maureen, rendez-vous dans 30 minutes. L'envoi de troupes occidentales en Ukraine ne peut être exclu, a affirmé lundi Emmanuel Macron en marge d'une conférence internationale qui réunissait à l'Elysée 21 chefs d'État. Désapprouvé par la classe politique dès le lendemain, les propos du président semblent aussi rejetés par une franche majorité de la population. Sondage CSA pour Europe 1, CNews, le JDD, 76% des Français sont contre l'envoi de troupes françaises en Ukraine. Par tranche d'âge, les 50-64 ans sont les plus réticents, à 85%, alors que les 18-24 ans s'y opposent à 68%, mais c'est toujours donc très largement contre. Je ne sais pas si on a le détail par sensibilité politique également, c'est très intéressant, merci beaucoup. On voyait que plus on va à droite, plus la réponse est non, plus les Français donc sont défavorables à cette hypothèse. Un commentaire, Karima, allez-y.
Le message est assez clair, en fait, les Français ne veulent pas entrer en Troisième Guerre mondiale. Je pense que c'est assez clair. Les Français n'ont pas nécessairement envie de se dire on va vraiment participer activement, être co-belligérant, pour ne pas dire être véritablement belligérant dans cette histoire. Et ça a eu des résonances un peu partout. Hein. On a vu que ce soit l'Allemagne qui a dit non, pas question d'envoyer des troupes au sol. On a vu en Autriche, ça a été la même chose. L'Espagne, au Canada aussi, ça réagit partout parce que ça a eu vraiment un effet...
Le monde entier a réagi, c'est opposé à Emmanuel Macron.
Ça a eu un effet de choc. Et quand même, et ça rappelle quand même une chose aussi. Je pense qu'à un moment donné, on peut pas jouer avec ça comme ça, parler tout ça avec légèreté, ça a des conséquences absolument majeures. Et le rôle du président Emmanuel Macron, c'est de protéger en premier les intérêts de la France, les Français, de ne pas basculer dans une situation où tout peut dégénérer. Alors oui, le message était quand même d'alerter sur la situation en ce moment, de se dire qu'on est quand même tributaire de ce qui se passe avec les États-Unis. On sait qu'il y a encore 60 milliards de dollars qui sont bloqués au Congrès. On sait que du côté de Donald Trump, il n'a pas nécessairement envie de s'engager, s'il était élu président, de s'engager dans un conflit. Donc l'Europe est un peu face à elle-même en se disant « Mais qu'est-ce qu'on fait pour protéger nos frontières? Il y a une véritable menace. » Mais de là à basculer et de participer activement dans ce conflit, je pense qu'il y a une marge à ne pas franchir. Exactement.
La question d'envoyer des troupes ne se pose pas aujourd'hui, mais le président a entraîné un certain nombre de réactions nationales, internationales. Service après-vente obligatoire pour le Premier ministre. Aujourd'hui au Sénat, Mickaël, vous réagissez.
La République est interrogée. Il lui est demandé s'il y a des perspectives qu'il peut exclure par principe. Monsieur le Président, au regard de tout ce que je viens de vous dire, de l'historique que nous avons sur ce conflit, du changement de posture de la Russie, est-ce qu'en responsabilité, le Président de la République peut dire qu'il exclut par principe certaines perspectives? Je ne le crois pas. Et quand on parle de soldats français, on peut tout à fait parler de soldats français sur des actions de formation, de défense sol-air ou de défense d'un certain nombre de frontières. Je le dis de manière très claire. Mais dans certaines interventions, j'ai eu le sentiment que le président de la République avait annoncé un certain nombre de choses. Non. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a, en responsabilité, et je le considère très responsable, refusé d'exclure des perspectives, alors qu'à nouveau, si nous avions entendu ce qui excluait des perspectives il y a 2 ans, nous ne serions pas aujourd'hui en train de soutenir les Ukrainiens militairement et probablement que les Ukrainiens n'auraient pas survécu à l'agression russe comme ils le font héroïquement depuis 2 ans.
Il sort les rames. C'est brillant, mais il rame.
Non, désolé de vous dire que je trouve pas ça particulièrement brillant. On ne demande pas au président de la République ce qu'il pense profondément de l'intervention des troupes françaises en Ukraine.
À ce compte-là,
qu'il n'exclut pas non plus l'envoi de la bombe nucléaire, si on va jusque-là. Mais au bout d'un moment, il fait une déclaration en public sur la potentielle intervention de troupes françaises et occidentales en Ukraine, alors qu'il n'a pas le soutien des Français. Pas le soutien de la classe politique, c'est rare qu'il y ait une telle unanimité. Il a consulté personne, pas le soutien des partenaires européens, pas le soutien des États-Unis. Donc c'est très simple, ça ne se fera pas. Et si l'objectif, c'était d'envoyer un message de communication de guerre à Poutine, et bien aujourd'hui, Poutine sait plus que jamais que le camp occidental est désuni sur cette question. Donc maintenant, le message a été non seulement totalement inconséquent et irresponsable, mais en plus très inefficace sur le plan de la communication de guerre.
Écoutez Jean-Luc Mélenchon également.
Je suis, comme la plupart des observateurs bien informés, consterné.
Consterné.
La politique étrangère de la France est faite de dérapages incontrôlés, d'annonces fantasques, comme ouvrir le parapluie nucléaire sur toute l'Europe.
Alors, restons sur cette annonce-là, pourquoi un dérapage ?
Mais, monsieur Gendre, sérieusement, vous me demandez pourquoi c'est un dérapage ?
Oui, je pense que vous allez me répondre sérieusement.
Oui, bien sûr. Ça ferait de nous des belligérants.
Jean-Claude Dacier, c'est vrai que c'est quand même le même Emmanuel Macron qui affirmait il y a 2 ans qu'il ne fallait pas humilier la Russie. Enfin, je veux dire, il y a un moment...
Ça s'appelle comment une grosse bêtise.
Ouais.
S'il était aussi audacieux en politique française, il y a de grosses réformes qui devraient être faites, qu'il l'ait en politique étrangère, j'en serais le premier ravi. Hélas, là, il a fait ce que tu as dit. Bon, je vais pas répéter, mais c'est pas loin du désastre dans la mesure où la Russie, d'ailleurs, a très modérément réagi. Le spectacle de la division européenne leur est offert sur un plateau. Alors ensuite, le Premier ministre a fait ce qu'il a pu pour essayer de dire « Mais non, on va mettre des mécanos, on va mettre des gens qui sont des spécialisés. » Il a fait ce qu'il a pu. Décidément... Je dirais que le président de la République n'aide pas son nouveau Premier ministre entre la crise agricole et la crise internationale aujourd'hui. Il a du mal à s'installer. C'est vrai qu'on a
l'impression qu'Ariel Attal ramasse les miettes un peu derrière la vaisselle cassée d'Emmanuel Macron.
Il court au salon d'agriculture.
C'est un petit peu ça, l'image est bonne.
Il a quelques difficultés, on verra comment il s'en sortira lorsque l'orage sera passé. Mais décidément, le mois de février est un désastre pour le président de la République.
Ouais, les Français qui se sont réveillés, c'est vrai, le lendemain de cette déclaration, avec l'impression d'une fuite en avant, si vous n'avez pas vraiment les connaissances, si vous n'êtes pas l'observateur éclairé qu'est Jean-Luc Mélenchon, par exemple, extrêmement bien informé, vous dites, attendez, là, Deuxième guerre mondiale, qu'est-ce qui se passe? Je vais acheter des pâtes parce que.
C'est vrai.
Enfin, ils vont faire des réserves de papier toilette.
C'est vrai qu'il y a eu 2 temps, en fait, dans cette affaire. Il y a d'abord eu la stupeur. On l'a appris, je crois, le soir.
Lundi soir, ouais. C'était pendant le soir info qu'on l'a appris.
C'était un peu la stupeur. Et puis la stupeur a laissé place au ridicule. Comme d'habitude, enfin, comme souvent, si je vais être indulgent. C'est-à-dire que concrètement, nos partenaires européens ont dit niet, si j'ose dire. Il n'est pas question, effectivement, d'aller livrer une guerre sur le sol ukrainien. Et puis, effectivement, par ailleurs, il y a aussi, accessoirement, ce qu'on pense en France et ce que pensent les Français, qui sont assez peu consultés sur cette guerre, qui sont assez peu consultés sur la question des livraisons d'armes, pardon. Parce que la co-belligérance, on peut jouer, on peut danser sur un pied et sur l'autre. Enfin, depuis 2 ans, on est clairement beaucoup plus d'un camp que de l'autre. Alors, c'est très difficile d'articuler... C'est très difficile d'articuler un discours de... Au départ, ce qui semblait être celui d'Emmanuel Macron, d'arbitre, un peu d'arbitre des élégances, voyez-vous, et puis aujourd'hui, de fait, être quasiment dans une co-belligérance, enfin, c'est compliqué. Et là, on arrive dans un stade qui est un stade effectivement dangereux, qui serait celui d'envoi de troupes. Mais encore une fois, tout ça, c'est un engrenage. Hein. Pardon, excusez-moi. Hein. On a commencé avec des vivres, après des armes, après quoi, peut-être, je ne sais plus si on a envoyé des avions, enfin bref, des chars en tout cas, c'est certain. Heureusement, on n'a pas franchi ce niveau-là, mais il faudrait peut-être faire attention et puis aussi, accessoirement, écouter.
Mais personne ne soutient la position affichée par le président de la République, personne même ne comprend ce qu'il a voulu faire. Yohann Uzay, une réaction, et après, je vais vous faire voir, je vais vous faire lire, parce que vous parliez de bêtises de la part du président de la République, je crois que c'est Jean-Claude qui l'a dit, enfin peu importe. J'ai la palme du jour, elle n'est pas d'Emmanuel Macron. Mais Yohann, un petit mot d'abord.
Non, mais il est évident qu'on ne peut pas engager une guerre contre une puissance nucléaire, la première puissance nucléaire au monde, si les intérêts vitaux de la nation ne sont pas menacés. Alors la Russie représente à différents égards, une menace pour la France.
Mais j'aimerais pas être là si on était en guerre contre la Russie.
Pour les intérêts de la France. Mais il est évident que la Russie ne menace pas la vie de 70 millions de Français. Donc nous n'allons pas engager une guerre de manière directe contre la Russie, parce que nous sommes en guerre indirectement contre elle, effectivement, en fournissant des armes. Ça a d'abord été des armes, des missiles solaires, etc. Ensuite, on a commencé à livrer des missiles longue portée, ce qui était d'abord exclu au début de la guerre. Maintenant, on s'apprête à livrer des avions, etc. Donc on voit effectivement qu'il y a une montée en puissance, c'est vrai, parce que le président de la République considère que l'Ukraine ne peut pas perdre cette guerre, que ça laisserait les mains libres à la Russie, que ça n'est pas envisageable. Mais ne soyons pas non plus naïfs. Il y a déjà des hommes français sur le terrain.
Oui.
Il y a déjà des formateurs, il y a déjà des mineurs qui y sont de manière officieuse. D'ailleurs, Emmanuel Macron, quand il le dit, nous ne pouvons pas exclure d'envoyer des troupes françaises ou européennes de manière
occidentale.
Occidentale, de manière officielle. Donc il le sous-entend déjà en réalité, qu'il y a déjà des hommes français sur le terrain.
Le monde entier, a priori, donc, est contre la ligne tenue par le président de la République, sauf un homme, Bernard Kouchner.
Ah oui.
Je ne sais pas si vous avez vu les déclarations.
Et 25% des Français, quand même.
Ancien ministre des Affaires étrangères, oui. Je suis favorable à des troupes au sol, peut-être à la frontière, ce n'est pas facile à dire, de déclencher la guerre pour son propre pays, ça va coûter des sacrifices.
Il est fidèle à sa ligne de politique étrangère.
Non mais quelle légèreté, quelle légèreté, je ne sais pas.
Surtout que monsieur était favorable à l'intervention des troupes occidentales à l'époque en Irak.
Mais oui. Ah oui, c'est ce que je dis.
C'est des gens qui ont fait des erreurs toute leur vie et qui continuent.
Y a-t-il pas un moment où il faut savoir,
après une carrière politique,
éviter de prendre la parole sur des sujets comme celui-là? Satiana n'a rien dit encore sur ce sujet.
Moi, j'aurais pas un avis aussi tranché en réalité.
Sur les mots de Bernard Kouchner?
Non, de façon générale. Et voilà. Je trouve qu'en fait, bon, d'abord, j'étais un peu ahurie par le service après-vente qui a essayé de faire s'effacer tes journées pour le coup. Le patron du Quai d'Orsay à l'Assemblée. Je vais quand même vous citer cette phrase assez ahurissante. En fait, le président aurait voulu parler de nouvelles actions de soutien à l'Ukraine, comme par exemple du déminage, du cyber, de la production d'armes sur place. Et en fait, c'est une présence sur les territoires sans franchir le seuil de belligérance. Rien ne doit être exclu. Bon, quel est le seuil de belligérance en fait en l'état? C'est vrai que c'est une position qui est indéfendable.
Quel effort.
J'entends ensuite certaines personnes qui disent en fait c'est de la dialectique de dissuasion. Et donc face à Poutine, il faut avoir notamment Guillaume Ancel, etc. Il faut avoir ce type, de discours parce que c'est la seule chose que Poutine
Emmanuel Macron
entend.
Bon.
Mais la dissuasion, ça se fait à plusieurs.
Mais à condition qu'il faut harmoniser et que les autres soient d'accord.
La seule chose que j'entends, en tout cas aujourd'hui, si je peux terminer, la seule chose que j'entends aujourd'hui, c'est ça. C'est qu'en fait, aujourd'hui, Vladimir Poutine, c'est un fait, se croit tout permis, peut aller annexer des régions, des pays, dit qu'un jour, il pourrait s'en prendre à la Pologne, aux Pays-Baltes, à la Finlande même, éventuellement.
Les Pays-Baltes, c'est l'OTAN.
Il n'a pas réussi à prendre l'Ukraine, quand même.
Dans son interview avec Tucker Carlson, il dit exactement.
La Moldavie est dans son viseur.
Oui, mais entre être dans le viseur et être attaqué, c'est autre chose.
Non, mais il se croit tout permis. Si je peux terminer, il se croit tout permis, il n'y a aucune limite. On voit aussi comment les opposants sont muselés, torturés, assassinés, sous les yeux du monde, sans que personne ne dise rien.
Non, mais c'est pas parce que vous évoquez des pays qui sont membres de l'OTAN. Et les pays membres de l'OTAN, vous savez qu'en un clin d'œil,
la guerre, c'est sérieux.
Je peux terminer ma phrase. C'est une façon, une façon de considérer qu'on peut tout se permettre, qu'on peut aller conquérir.
Il y a beaucoup de dictatures qui nous menacent pas directement.
Est-ce qu'on peut ne pas être d'accord avec vous deux secondes
et juste émettre un avis tranquillement sur ce plateau? Merci. Aucun problème, on a le droit de rebondir aussi.
Je termine juste deux secondes. Oui, mais si je peux juste finir une phrase, c'est pas mal.
Allez-y, concluez s'il vous plaît, parce que c'est un petit peu long.
Donc, en ce cas, j'arrête.
Mais non, je vous dis de conclure.
Mais bon,
je vais pas vexer comme ça.
C'est impossible d'avoir un avis contraire sur ce plateau.
C'est une démonstration qui est un peu longue. Je vous demande juste de conclure.
Je vais terminer maintenant. Voilà.
Donc voilà. Donc Vladimir Poutine se croit tout permis et Emmanuel Macron lui envoie un message. C'est ce que vous dites substantiellement à travers cette déclaration de l'autre jour.
En fait, juste pour terminer, je trouve qu'il ne faut pas avoir un avis si tranché parce qu'en fait, au final, Emmanuel Macron, ses propos étaient certes pas très clairs, mais il ne parlait pas de guerre. Il ne lançait pas une guerre. En revanche, la vraie question que ça pose quand on voit aujourd'hui les atermoiements et les dissensions au sein de l'Europe, on ne voit pas très bien comment on va pouvoir faire une armée européenne et avoir une question de défense commune européenne.
Ben surtout qu'on sait que les États-Unis n'interviendraient pas, quoi qu'il arrive.
Sûrement pas, surtout si Trump
ne sommes pas arrivés au jour où l'Europe pourrait se passer des États-Unis pour assurer sa sécurité. Je vous donne tout de suite la parole. Un dernier extrait, celui d'Ursula von der Leyen, et vous réagissez.
La menace de guerre n'est peut-être pas imminente, mais elle n'est pas impossible. Il ne faut pas exagérer les risques de guerre, mais il faut s'y préparer. Et cela commence par la nécessité urgente de reconstruire, de reconstituer et de moderniser les forces armées des États membres. Ce faisant, l'Europe devrait s'efforcer de développer et de fabriquer la prochaine génération de capacités opérationnelles permettant de gagner des batailles et de s'assurer qu'elle dispose d'une quantité suffisante de matériel et de la supériorité technologique dont nous pourrions avoir besoin à l'avenir.
Mais moi, ce que je ne comprends pas, et ce que j'aimerais demander à Mme von der Leyen, à M. le Président de la République, il n'y a pas de consensus. Personne ne veut envoyer des troupes. Il n'y a pas de volonté, il n'y a pas les moyens. Pourquoi est-ce qu'on évoque tout ça maintenant? À quoi bon, si ce n'est effrayer l'opinion
Non, mais
Mickaël qui a essayé de prendre la parole. Par contre, là, je suis désolé, mais là, c'est moi qui vais devoir faire la police. Mickaël, s'il vous plaît.
Ça va être très court, en
désolé,
plus.
Désolé, mais...
C'est très rare que je sois d'accord avec Ursula von der Leyen, mais en l'occurrence, c'est le cas. Elle n'est évidemment personne et elle n'a pas la légitimité pour donner des recommandations stratégiques aux États qui sont souverains
et
qui
ne doivent d'effrayer les gens
rendre de compte qu'à leur peuple. Mais je trouve que la recommandation peut quand même être pertinente. Elle parle même d'États membres et pas d'un armement au niveau de l'Union européenne. Donc j'y suis également favorable puisque ça relève de la souveraineté nationale. Ensuite, simplement, tout à l'heure, j'essayais de rebondir sur ce que Tatiana disait en disant que la Russie est évidemment une dictature. Poutine est un despote, mais il y a beaucoup de dictatures dans le monde qui ne nous menacent pas directement géopolitiquement et pour lesquelles on n'a pas intérêt à rentrer en conflit direct. Voilà. Et qui sont même nos alliés comme le Qatar.
Ce qui prouve bien que la diplomatie des valeurs, ça ne veut rien dire.
Je suis d'accord.
Ça veut rien du tout. La Turquie est dans le
camp. Vraiment, un dernier mot. Johan.
Non, mais moi, je suis d'accord avec Ursula von der Leyen qui dit qu'il faut que les États membres se préparent à moderniser leurs armées, à dépenser plus et à investir plus dans les armées, parce qu'on pensait qu'une guerre sur le sol européen était impossible, une guerre de haute intensité, et on voit bien que ça s'est produit. Dans la mesure où les États-Unis, dans les prochaines années, sont amenés à se désengager de ce qui se passe sur le sol européen, l'Europe doit être prête à assurer sa propre sécurité, et naturellement, ça passe par des investissements extrêmement lourds, extrêmement conséquents, et bien sûr, il faut s'y préparer, parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain.
Allez, conclusion.
Non, mais c'est ça. On sait, les temps sont incertains, on peut le dire comme ça. Et je veux juste revenir sur la question de Donald Trump quand il a fait un avertissement en disant, parce que ça a quand même un rapport. Quand il a dit, ben oui, si jamais la Russie vous attaque ou quoi que ce soit, ben si vous n'avez pas payé comme il faut vos redevances pour l'OTAN, ben moi, je n'irai pas vous protéger. C'est un peu dans ce discours-là aussi. Quand j'entends Mme Ursula von der Leyen, c'est vrai que ce n'est pas très populaire auprès des citoyens. En général, quand on dit on va augmenter les dépenses militaires, les gens ne sont pas très heureux de tout ça. Mais au final, c'est qu'il y a beaucoup de pays qui ne donnent pas non plus le fameux 2% du PIB pour l'armement, pour tout ça. Et on est dans un contexte aujourd'hui où, effectivement, il y a des frontières qui sont menacées et ça fait partie de la chose de dire ben, on va peut-être se rééquiper, se réarmer,
même si c'est quelque chose qui nous fait plaisir. D'être capable, en tout cas, de rivaliser contre la première puissance nucléaire mondiale, surtout sans l'aide des États-Unis. Passons. Le salon de l'agriculture. On met les pieds un peu plus dans la gadoue, où le défilé des politiques se poursuit. Marine Le Pen, qui a déambulé aujourd'hui dans les allées, une visite de 8 heures durant laquelle elle a multiplié les dégustations, les photos, de quoi créer un décalage, évidemment, avec la visite présidentielle de samedi. Florian Tardif a suivi cette journée pour CNews.
Oui, il y avait comme un air de campagne aujourd'hui au Salon de l'agriculture. Durant les 8 heures où Marine Le Pen a déambulé dans les allées de ce salon, la présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale s'est prêtée volontiers au jeu des selfies. Nombreux, très nombreux même, puisqu'on se bousculait presque pour en obtenir un. Et entre ces moments, avec le public, elle a pris le temps d'échanger longuement, il faut le dire, avec des cultivateurs, des éleveurs ou encore des vignerons défendant sa vision de l'agriculture en opposition à celle d'Emmanuel Macron, tout simplement. Parce que la présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale est d'ores et déjà en campagne, campagne peut-être même présidentielle. Elle ne s'en cache pas d'ailleurs, écoutez.
Non mais moi j'ai été candidate 3 fois à la présidentielle et peut-être je suis en train de me préparer à une 4e candidature. Donc j'essaye de me comporter en tenant compte de cette perspective.
D'ailleurs, en marge de cette déambulation de la présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale, l'un de ses proches m'expliquait que compte tenu des images que l'on voyait de cet accueil chaleureux ici de Marine Le Pen, malgré quelques huées assez rares, il faut le dire, eh bien, ces images montraient bien que le processus de normalisation était terminé et qu'à présent, il fallait enclencher le processus d'adhésion. Adhésion au parti, le Rassemblement national, mais également à Marine Le Pen. Pourquoi ? Tout simplement pour tenter de rejoindre l'Élysée en 2027, ce qui reste l'objectif numéro un de la présidente du groupe RN à l'Assemblée.
Johan Uzaï, une annonce qui faisait des doutes pour personne, hein. C'est pas le scoop de l'année parce qu'elle l'a déjà dit, mais elle le redit. Pourquoi aujourd'hui ? Pourquoi dans ce contexte ?
Alors elle l'a jamais dit de cette manière-là.
Oui.
Elle s'y prépare en fait depuis le soir du second tour de l'élection présidentielle de 2022. Elle sait depuis tout le temps qu'elle sera candidate une quatrième fois, ça ne fait absolument aucun doute. Elle laissait planer une forme de suspense. Elle disait d'abord, elle a dit « je ne serai candidate que dans des circonstances exceptionnelles ». Ensuite elle disait « je suis la candidate naturelle de mon camp jusqu'à ce que je décide de ne pas l'être ». Et maintenant, elle dit « je me prépare à une quatrième candidature ». Bon, c'est, évidemment, elle s'y prépare depuis tout le temps. Pourquoi est-ce qu'elle le dit aujourd'hui ? Peut-être parce qu'elle, pour couper court aussi aux rumeurs ou aux questions des journalistes qui disent « est-ce que vous vous sentez menacé par Jordan Bardella ? Est-ce que Jordan Bardella ferait un bon président de la République ?» etc. Je crois qu'elle n'a plus envie de répondre.
On en a parlé tout à l'heure dans la rédaction, Johan. Oui. On a eu cette discussion tous les deux. Oui. Et je vais trahir notre conversation. Oui. Je vous ai dit... Johan, si elle le dit aujourd'hui, c'est parce qu'elle voit que la visite de Jordan Bardella s'est encore mieux passée que la sienne la veille, que Jordan Bardella explose les sondages, qu'elle veut le court-circuiter pour ne plus semer le doute, parce que il y a un vrai danger autour de Jordan Bardella. Et vous m'avez dit non, rien à voir, pas du tout.
Eh bien, je vous redis à nouveau non, rien à voir, pas du tout. Parce que vous sous-entendez qu'elle se sent menacée par Jordan Bardella, alors que je crois que ça.
Elle veut couper court. Alors en tout cas,
oui, parce qu'elle, je crois qu'elle n'a pas envie de répondre aux questions des journalistes matin, midi et soir, qui lui demanderaient est-ce que Jordan Bardella si, est-ce que Jordan Bardella ça. Bon, là, elle dit je suis la candidate naturelle et je serai candidate, je m'y prépare. Mais je crois qu'en aucun cas elle se sent menacée par Jordan Bardella.
Elle a été moins bien accueillie que lui au salon, moins bien.
Ça ne veut rien dire. On ne lance pas une campagne présidentielle parce qu'on est plus ou moins bien accueilli
que
quelqu'un
au salon de l'agriculture.
C'est complètement anecdotique.
Vous me prenez ensuite, pour un lapin de 6 semaines.
Ensuite,
ouais.
elle le fait aujourd'hui parce que le pouvoir présidentiel, Emmanuel Macron et la majorité sont dans une période extrêmement difficile. Elle le fait aussi parce qu'elle veut montrer qu'elle n'hésite pas. Si elle se déclarait un an avant la présidentielle, ça pourrait laisser croire aux Français qu'elle hésite, qu'elle n'est pas sûre d'elle. Là, elle le fait très en amont pour montrer qu'elle est sûre d'elle. Voilà, il y a beaucoup de raisons qui font qu'elle le fait aujourd'hui et c'est quelque chose de tout à fait logique.
Jean-Claude, bon, comment analysez-vous cette...
Je suis d'accord avec Johan. Je n'ai jamais pensé que M. Bardella avait la capacité, l'âge et les moyens d'être candidat à la prochaine présidentielle. Vous me direz que depuis qu'un jeune homme a pris Matignon... Peut-être mon analyse est-elle erronée. Néanmoins, ça me paraît quand même peu sérieux de penser que Bardella puisse être maintenant, dans 3 ans, élu président de la République. Je ne crois pas une seconde. En revanche, je crois que ce que Mme Le Pen a dit aujourd'hui est important, parce que c'est clair, on avait un petit doute quand même. D'abord, il y a toujours un problème juridique qui fait qu'elle peut être interdite de se présenter.
C'est peut-être pour ça qu'elle le fait aussi. C'est peut-être pour ça qu'elle le fait.
On va voir si ça recommence. Si l'affaire Fillon recommence, ça m'étonnerait, mais enfin, on verra bien.
Elle le fait peut-être pour se prémunir.
Mais elle sera donc candidate pour la quatrième fois. C'est déjà la preuve d'une très grande ténacité. Et donc, le président de la République actuel ne s'y trompe pas. Il en a fait déjà l'adversaire numéro un. Voilà, maintenant c'est dans 3 ans, il va se passer tellement de choses.
Que l'eau va couler sous les ponts.
Que l'eau, coulera entre autres sous les ponts, donc nous aurons l'occasion de reparler de tout ça. Mais elle est candidate, on le sait, c'est officiel. Très bien, bon, on va voir ce qui va suivre.
Un petit extrait encore avant de faire réagir le reste du plateau. Vous savez que notamment la coordination rurale, le syndicat est accusé d'avoir des liens quasi intimes avec le RN de Marine Le Pen. Elle a voulu revenir sur ces liens supposés entre elle et les syndicats.
Il faut qu'Emmanuel Macron comprenne que j'ai fait 42% contre lui à la dernière présidentielle. Donc vous voyez, dans le meilleur des mondes, il y aurait 42% de tel ou tel syndicat qui pourrait potentiellement voter pour Marine Le Pen. Qu'est-ce qu'il y a d'anormal au fait qu'il y ait des adhérents de syndicats qui se sentent proches de nous ? Moi, j'ai rencontré des tas d'adhérents de la CGT, qui pourtant est considéré comme étant un syndicat proche de la gauche, qui votent pour moi. Maintenant, Ça n'est pas ça qu'a dit Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a dit que c'est le Rassemblement national qui, par l'intermédiaire de la coordination rurale, a organisé des manifestations contre moi. Et ça, c'est scandaleux. Ça, c'est une diffamation de sa part.
Allez, Pierre Gentil, cette séquence crise agricole, c'est vrai que d'une certaine façon, elle fait du bien au RN, le parti de Marine Le Pen, qui profite clairement de cette crise. Et de toutes les crises, d'ailleurs.
Oui, enfin, en même temps, c'est pas tout à fait surprenant. C'est-à-dire que les positions du Rassemblement national, effectivement, ont l'air d'être prises, effectivement, par un certain nombre. Je dis un certain nombre, pas tous, mais effectivement, un certain nombre d'agriculteurs. Et on a vu, effectivement, la différence de popularité entre aujourd'hui Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Enfin, il avait dit ce sera moi le chaos. Là, pour l'instant, sans l'agriculture, c'était lui le chaos.
Dans l'opposition, soyons, parlons franchement
aussi. C'est certain, c'est certain. Mais alors, oui, c'est plus facile quand on est dans l'opposition. Mais bon, alors maintenant, un point sur lequel je voulais revenir avant. Quand Marine Le Pen a dit, alors on a retenu ce seul mot, alors je sais pas si... Bon, évidemment, il n'y a pas de hasard, effectivement, quand elle dit « je me prépare à une quatrième candidature », mais c'est aussi, outre le fait de s'avancer petit à petit et d'envoyer des signaux, une manière d'envoyer un signal aux magistrats, aux juges, en leur disant « attention, si vous me déclarez inéligible,
bien sûr,
vous déclarez inéligible la première opposante de ce pays ».
C'est vrai.
Alors, je sais bien qu'on ne juge qu'en droit, mais vous savez, les magistrats ne sont pas des machines. Donc ils penseront à cela aussi avant de rendre leur jugement.
Est-ce qu'ils vont refaire l'affaire Fillon ?
Mickaël et Tatiana, il nous reste 3 minutes, un commentaire chacun.
Non, simplement sur Bardella, il y a évidemment un phénomène politico-médiatique. Tous les sondages le montrent, il est extrêmement populaire, il est notamment populaire chez les plus jeunes. D'ailleurs, beaucoup plus populaire, il y a récemment un sondage qui a comparé...
Dans le Parisien, hier ou avant-hier, ouais.
Qui a comparé la popularité de Gabriel Attal et de Jordan Bardella chez les jeunes. Et il se trouve que Jordan Bardella est beaucoup plus populaire chez les jeunes que Gabriel Attal. Qui plaît plutôt à l'électorat de la Macronie, c'est-à-dire globalement aux plus de 65 ans. Après, évidemment, la séquence a fait beaucoup de bien au RN, ça correspond plutôt à son électorat, mais bon, c'est ce qui a provoqué l'ire d'Emmanuel Macron, mais en même temps, c'est le jeu. Le RN, ils sont inexistants dans les grandes villes, pendant les élections municipales, je pense que ça fera aussi du bien à la Macronie à ce moment-là. Voilà, après, Marine Le Pen... Pour terminer, je ne pense pas qu'elle soit dans une concurrence avec Jordan Bardella. Elle a d'ailleurs eu une manière assez habile de s'accaparer sa popularité en disant qu'elle faisait un ticket à deux pour 2027
avec
elle présidente et lui Premier ministre. Donc je ne suis pas sûr qu'il y ait une rivalité entre les deux.
Justement, on parlait de sondage. Tatiana, on peut peut-être réagir également à ce dernier sondage BVA pour RTL. Le Rassemblement national caracole en tête des intentions de vote pour les européennes du 9 juin prochain. Avec l'écart est quand même assez significatif pour la liste de Jordan Bardella avec 30%, 18% derrière pour la liste soutenue par Renaissance Horizon et le Modem, 11%. Ça, c'est le trio de tête, évidemment, qu'on vous a mis pour la liste de Raphaël Glucksmann à gauche. Un commentaire sur les propos tenus ces dernières minutes et peut-être ce sondage qui montre encore une fois la position de force du Rassemblement national.
Une position évidente, hein, 10% derrière pour la liste d'Emmanuel Macron, c'est quand même extrêmement douloureux.
12, ouais.
10, non, ça dépend des sondages, et entre 10 et 12, ça dépend des sondages évidemment ces dernières semaines. C'est vrai que le RN a beaucoup capitalisé ces derniers temps sur la colère des agriculteurs, hein, il faut bien dire, avec des thèmes qui lui sont chers et qui sont porteurs pour ce parti. Mais si je devais rebondir aussi sur une différence entre Marine Le Pen et Jordan Bardella, ça serait la suivante, c'est qu'elle a quand même dû un peu faire le service après-vente elle aussi, parce qu'il a quand même commis une sacrée boulette sur la question des prix planchers qui a toujours été dans le programme du RN depuis des années, et que c'est pas la première fois que Jordan Bardella met en difficulté Marine Le Pen. Souvenez-vous, il y avait eu aussi ses propos notamment sur l'antisémitisme de Jean-Marie Le Pen, alors que Marine Le Pen était dans un processus justement de dédiabolisation de son parti, où elle s'était complètement déconnectée de son père. Là, cette fois-ci, c'est aussi une boulette, et Marine Le Pen a dû faire une sorte de rétropédalage, ou plutôt d'explicitation de sa position, la position officielle du parti aujourd'hui lors du Salon de l'Agriculture. Et d'ailleurs, dans les boucles internes, certains demandaient, mais en fait, c'est quoi la position officielle? Donc ça montre quand même qu'il y a un petit souci, une petite friture sur la ligne entre les deux, entre Marine Le Pen et Jordan Bardella.
Bon, en tout cas, les voyants sont au vert pour le moment pour le parti de Marine Le Pen qui annonce ou réannonce son intention de partir pour la course à l'Elysée en 2027. Maureen Vidal, 23h30 pile, on va vous parler de ce petit rappel à l'ordre dans un instant de Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, aux membres du gouvernement qui ne répondent pas aux questions des parlementaires. Et puis on partira pour Avignon avec cette avant-dernière journée au procès d'Éric Masson. Et l'interrogatoire du principal suspect, c'est Noémie Schulz qui nous racontera ça dans un instant. Maureen Vidal.
Le Sénat approuve l'inscription de l'intervention volontaire de grossesse dans la Constitution. Un vote historique sur les 339 votants. 267 ont voté pour et 50 contre. Prochaine étape, le Congrès à Versailles, où les parlementaires se prononceront dès lundi pour inscrire définitivement l'IVG dans la Constitution. 76% des Français contre l'envoi de troupes militaires françaises en Ukraine. C'est le résultat d'un sondage CSA pour CNews, Europe 1 et le JDD. Après la polémique qu'a provoqué Emmanuel Macron en mentionnant l'idée d'envoyer des troupes occidentales en Ukraine. Côté Europe, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a proposé d'utiliser les bénéfices tirés des avoirs russes gelés pour financer des équipements militaires pour l'Ukraine. Enfin, la SNCF enregistre un bénéfice de 1,3 milliard d'euros en 2023. Les résultats financiers de l'entreprise sont positifs pour la troisième année consécutive. En 2022, la SNCF avait enregistré un bénéfice record de 2,4 milliards d'euros. Les efforts payent, s'est réjoui le PDG du groupe Jean-Pierre Farandou.
Merci beaucoup Maureen. Avant de retrouver Noémie Schulz à Avignon, je vous le disais, non pas pour le procès d'Éric Masson, j'ai dit n'importe quoi, le procès du meurtre d'Éric Masson, et chacun aura vraiment bien corrigé. La présidente de l'Assemblée nationale, regardez ça, qui a été obligée de rappeler à l'ordre, non pas les oppositions, aujourd'hui dans l'hémicycle, ou hier plutôt, mais le gouvernement, non c'était aujourd'hui, pardon, aujourd'hui, autant pour moi. La raison, donc, les ministres ont une fâcheuse tendance à ne pas répondre aux questions des parlementaires, exemple donc avec cet échange entre une députée LR et une secrétaire d'État. Regardez.
Des informations récentes circulent concernant l'autorisation accordée pour l'installation d'un village saoudien sur le site même des Invalides à partir du 10 mai 2024 et ce pour une période de 4 mois, couvrant ainsi toute la période des Jeux Olympiques et Paralympiques. J'aimerais, Madame, Monsieur le Ministre, obtenir des éclaircissements à ce sujet.
Je vais tenter de répondre sur ce que je sais. Effectivement, c'est des informations que nous avons pu aussi avoir. Aujourd'hui, rien n'est concret, rien n'est fait. Et donc, je comprends vos interrogations, mais je ne répondrai pas sur des choses qui ne sont pas faites, ni signées, avec aucun accord. Voilà, je vous remercie. Madame la députée Serre connaît le travail que nous avons déjà effectué ensemble et elle sait que je lui apporterai une réponse. Je vous remercie.
Madame la ministre en charge des relations avec le Parlement, je vous remercie d'indiquer à chaque ministre qu'il faudrait vraiment qu'il réponde aux questions que lui pose le Parlement. Je rappelle que le gouvernement est responsable devant le Parlement.
Patricia Mirallès, la secrétaire d'État aux anciens combattants, que certains découvrent à travers cette séquence. Rappelée à l'ordre, Johan, c'était assez inédit. En tout cas, moi, je n'avais jamais vu une séquence comme ça à l'Assemblée nationale.
Oui, alors c'est vrai que la secrétaire d'État est un peu novice en politique. En tout cas, elle vient d'intégrer le gouvernement. Donc si vous voulez, elle y va franco. Elle dit non, je ne répondrai pas à la question. Donc c'est quand même un peu surréaliste parce que Yael Braun-Pivet, effectivement, a raison de dire...
Elle aurait pu être un peu plus habile en
même temps. Non, mais le gouvernement est responsable devant le Parlement. Et c'est vrai qu'entre 2017 et 2022, les gouvernements successifs l'avaient complètement oublié. Ils avaient une majorité très large à l'Assemblée nationale. Ils se croyaient un peu tout permis pendant 5 ans. Là, il y a une majorité relative... Ça change un peu les choses, mais régulièrement, le ministre de l'Intérieur, quand on l'interroge sur les chiffres de la délinquance, sur les chiffres de la sécurité, ne répond pas aux questions.
Mais là, il y a les Brown Pivet, peut-être un petit peu moins prompt, à rappeler à l'ordre ministre de l'Intérieur, là où avec la secrétaire d'État aux anciens combattants, c'est peut-être un petit peu plus facile.
Eh bien, il ferait mieux de rappeler à l'ordre le ministre de l'Intérieur, par exemple, mais il n'est pas le seul, parce que quand on l'interroge sur des choses aussi importantes que la sécurité, que l'immigration, et qu'il ne répond pas du tout, et qu'il met même en cause les oppositions, bien, je trouve que ça n'est pas responsable et que c'est même contraire à la Constitution parce que le gouvernement est responsable devant le Parlement. Ça, c'est quelque chose qui est constitutionnel.
Là, en l'occurrence, cette question, c'est sur l'extension du village olympique avec un stand pour l'Arabie Saoudite qui devrait se poser pour quelques mois sur la pelouse des Invalides. Donc, ce n'est pas une question existentielle en effet. Bon, un petit commentaire, Noémie Schulz nous attend à Avignon. On va y aller.
D'abord, cette question, a priori, donc, n'était pas destinée, mais plutôt pour le ministre des Armées. Et donc, en son absence, elle a dû, comme on dit, s'y coller. Et donc, ça montre à quel point aussi, du coup, les questions ne sont pas forcément soumises. Donc, elle n'avait aucune idée, en effet, de la réponse. Hein, il faut être tout à fait honnête. Et puis, elle commence, donc elle débute.
Non, mais attendez, elle dit, je suis informée. Oui, non, mais elle dit, je suis informée, donc voilà, elle peut avoir une réponse plus poussée, quand même.
Cela dit, ça montre quelque chose, je trouve, de plus profond au sujet de ce qui se passe ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières années au sein de l'Assemblée, qui sont de plusieurs ordres. D'abord, pour qu'il n'y ait pas de vote de confiance, que Elisabeth Borne et Gabriel Attal considèrent qu'il n'y a pas besoin d'avoir un vote de confiance par peur de ne pas avoir le vote nécessaire. Ça montre quand même combien aujourd'hui on fait fi justement de ce que représentent justement les députés et de combien ce que dit exactement Yael Braun-Pivet, le gouvernement est responsable de rendre des comptes devant justement l'Assemblée nationale et les députés qui représentent le peuple. Première chose. Et deuxième chose, petite anecdote, mais il y a aujourd'hui une question sur la réforme des QAG, puisqu'on appelle ça comme ça dans notre jargon journaliste. Question gouvernement. Il y en a une d'abord parce qu'on est revenu à deux questions au gouvernement mardi et mercredi avec un délai très raccourci, 1h15 le mardi, 45 minutes le mercredi. Et Gabriel Attal a même dit qu'en fait, il était prêt à ce qu'aujourd'hui, les questions du gouvernement dans les mois qui viennent ne lui soient destinées qu'à lui, c'est-à-dire que ça soit le seul à répondre. Ah. Proposition qu'avait faite d'ailleurs la présidente de l'Assemblée nationale à Elisabeth Borne à l'époque, qu'elle avait refusée.
Et pourquoi pas, ce genre de
du coup, ça pourrait éviter cela. Et c'est ce qui se passe par exemple en Grande-Bretagne.
Bon, bah écoutez, on verra si les QAG sont réformés.
Ça ne déplaira pas au Premier ministre.
Qui... Ah ben bah non, il est habile. C'est vrai, un peu mieux que Madame Miralles, donc on a découvert sur CNews ce soir. Deux jours après les aveux du meurtrier du policier Éric Masson. Ce matin, la cour d'assises du Vaucluse se tournait à nouveau vers Ilias Akoudade pour un interrogatoire approfondi, le premier depuis le début de l'affaire, où il a accepté donc d'expliquer ce geste qu'il avait toujours nié et de livrer donc sa version des faits. Noémie Schulz, je le disais, qui nous attend à Avignon. Qu'est-ce qu'on retient de cet interrogatoire qui était particulièrement attendu à la veille du dernier jour de ce procès?
Oui, l'interrogatoire du suspect. Hein. Je vous rappelle qu'Ilias Akoudade est toujours présumé innocent, même s'il est passé aux aveux, vous l'avez dit, lundi après-midi. Ce matin, effectivement, son interrogatoire a duré entre 3 et 4 heures. J'ai fait le con, j'ai voulu faire le beau. Voilà à quoi tient la mort d'Éric Masson. Ce matin, Ilias Akoudade a expliqué que ce 5 mai 2021, il est sorti de chez lui avec une arme parce qu'il a des différends avec des individus du centre-ville d'Avignon. Il répète qu'il ne savait pas qu'Éric Masson et son collègue étaient policiers. Si j'avais vu un brassard, jamais je ne me serait arrêté. Pourquoi aborde-t-il la victime, lui demande le président. Pour moi, c'était des dealers. Je voulais l'intimider, je voulais lui qu'il parte. C'est pour ça qu'il sort son arme. Le problème, poursuit Ilias Akoudade, c'est qu'Éric Masson n'a pas eu peur, qu'il a mis sa main sur son arme. Pris de panique, il tire. Je ne me suis pas levée en me disant « je vais tuer un homme ». Je n'ai pas voulu ce qui s'est passé. Dans la salle remplie de collègues, d'amis d'Éric Masson, des policiers, en grande majorité, l'agacement est perceptible. Rien dans la version donnée par l'accusé ne convainc non plus les proches de la victime, pas plus que ses excuses présentées en toute fin d'interrogatoire. J'ai honte. Tous les jours, je pense à Éric Masson. J'y penserai jusqu'à la fin de mes jours. Dans leur plaidoirie, les avocats des proches du policier ont pointé du doigt une pièce mal jouée, une récitation apprise par cœur. C'est ainsi qu'ils ont analyser les déclarations d'Ilias Akoudade. Éric Masson ne méritait pas de mourir, a conclu maître expert, l'avocat des parents d'Éric Masson. Ses parents attendent que vous rendiez la justice, que vous disiez ce qui s'est passé, et cela peut-être seulement leur permettra de trouver un semblant d'apaisement.
Noémie, demain, ce sera le réquisitoire, donc, et il reste une grande question avant de connaître le verdict. C'est est-ce que le meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique sera ou non retenu?
Oui, c'est vrai que c'est la question, c'est l'enjeu de ce procès, de ce verdict. Ilias Akoudade savait-il qu'Éric Masson et son collègue étaient policiers quand il les a abordés? Alors on l'a dit, lui il a répété qu'il l'ignorait, que sinon il n'aurait jamais engagé la conversation avec eux, qu'il pensait avoir affaire à des dealers. À l'inverse, Romain R, le binôme d'Éric Masson, a dit sa conviction d'avoir été clairement identifié comme fonctionnaire de police. Alors pourquoi ce point est-il essentiel? La peine encouru reste la même, c'est la perpétuité parce qu'Ilias Akoudade agit en état de récidive légale. Sinon, il aurait pu espérer une peine moins lourde si la circonstance aggravante de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique tombait. Mais pour la famille d'Éric Masson, au-delà de la question de la peine encourue, il est très important que la cour d'assises reconnaisse qu'Éric Masson a été tué parce qu'il était policier. On peut écouter peut-être à ce sujet maître expert.
C'est important que la cour d'assises dise que la qualité de policier était connue par l'auteur des tirs, parce que cela confortera les victimes dans l'idée que cette mort est, la mort est toujours injuste, mais dans de telles conditions, elle est encore plus insupportable. Et elle mérite d'être socialement condamner. On n'a pas le droit de tirer sur un homme. C'est une évidence. Mais la loi prévoit que si on tire sur un policier, c'est encore plus grave.
Demain matin, à partir de 9h, l'avocat général prendra ses réquisitions. Elle devrait s'efforcer de démontrer que cette circonstance aggravante de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique doit être retenue. Ensuite, la parole sera à la défense, une défense qui, elle, va tenter de convaincre la cour d'assises qu'Ilias Akoudad ignorait la qualité de policier d'Éric Masson. Ensuite, eh bien, ce sera aux jurés, aux trois magistrats professionnels, de se forger une intime conviction.
Merci beaucoup Noémie Schulz pour toutes ces précisions. Je vous remercie particulièrement parce que je sais que vous avez veillé beaucoup pour être en direct avec nous ce soir. Donc merci et très bonne fin de soirée à vous à Avignon pour cette nouvelle journée de procès demain. Je voudrais qu'on élargisse peut-être parce qu'il nous reste très peu de temps et je voulais vraiment que vous entendiez également ce témoignage. On a bien compris qu'on est sur le meurtre d'un policier, sur fond, a priori là encore bien sûr de trafic de drogue. On se dit aussi, bien sûr, que sur tout ce qui présente l'autorité, tout ce qui représente l'autorité, il faut être implacable, il faut que la justice envoie des signaux forts, sans quoi on n'arrivera à rien. Cette semaine, à l'Assemblée nationale, a été auditionné un ancien grand bandit de la French Connection, donc il y a plusieurs dizaines d'années, qui a été entendu sur justement son ressenti sur l'évolution de la délinquance et du banditisme. Et c'est très intéressant d'entendre quelqu'un qui a été un grand voyou expliquer, selon lui, ce que vaut aujourd'hui l'impact d'une peine de prison.
Quand il tombe jeune, quand il va en prison pour la première fois, il faut lui dire, voilà, tu vas prendre 5-6 ans et tu vas les faire. Il n'y a pas de grâce, il n'y a rien. Le jeune, il croit qu'il va faire 3 mois et qu'il va sortir. Vous voyez ? Donc, quelque part, il continuera. Parce que lui, 3 mois de prison, il sort, c'est un héros. Il va dire, moi, je n'ai pas parlé à la police, moi, 3 mois, voilà. Non, il se crée une image, ce mec.
Et un autre extrait avant qu'on en dise un petit mot sur le. Là encore, il est interrogé sur le rapport à la violence et les meurtres à l'époque où il était un grand voyou et ce qu'il constate aujourd'hui.
Aujourd'hui, il rentre dans le banditisme directement, mais il ne sait pas comment ça marche le banditisme. Il n'a pas les codes, il n'a rien. C'est-à-dire qu'il veut devenir calife à la place du calife, alors il est là, il prend une Kalachnikov et il tire et il dit voilà, moi. C'est comme ça, quoi, voilà. Et aujourd'hui, celui qui tue, il est brave. Et nous, celui qui tuait, il fallait qu'il ait une bonne raison de tuer.
Très intéressant ce qu'on vient d'entendre et l'évolution de cette violence.
Le monde et de la délinquance et le banditisme a changé en quoi ? En 30 ou 40 ans. C'est vrai que la French Connection, les Américains sont venus faire du business en France. On avait un problème gigantesque à l'époque. Bon, ça s'est bien terminé, même s'il reste encore des traces considérables à Marseille, hélas, avec le trafic de drogue. Mais moi, je dis juste un mot après avoir écouté ce monsieur. Je crois, comme lui, à l'exemplarité de la sanction.
Bien sûr.
Et si on a un problème, c'est justement avec notre politique pénale, qui est trop souvent... Alors c'est toute une philosophie, je ne vais pas en faire des heures, mais c'est toute une philosophie que nous avons depuis fort longtemps qui fait que la prison est réputée criminogène et que moins on en fait, mieux ça vaut. Il serait peut-être temps de réfléchir à une autre façon de penser. Je crois et je maintiens que vis-à-vis de cette délinquance qui devient insupportable, où on tire sur les flics comme si on tirait sur un moineau, la sanction est exemplaire.
Parce qu'aujourd'hui, et on l'a bien compris à travers ce témoignage, peut-être vraiment un dernier commentaire sur 30 secondes, les trafiquants ne reculent devant rien. Et c'est vrai que le témoignage de cet ancien grand voyou qui semble désabusé face à la violence actuelle est assez édifiant.
Et ce qui me marque dans son propos, c'est le côté démocratisation du crime. Et c'est la dimension sur laquelle je voulais insister, c'est l'extension du domaine du trafic. On a vu récemment... Une extension évidemment dans le recrutement, parce qu'ils recrutent de plus en plus jeunes, ils se servent notamment beaucoup des mineurs isolés, on a vu aussi des rapports sur ça. La préfète des Bouches-du-Rhône, je crois, en parlait il n'y a pas si longtemps, elle parlait aussi d'un risque de déstabilisation de la République. C'est pour dire à quel point ces micro-narco-états font maintenant peser de vrais risques sur l'ensemble du territoire. Et évidemment, notre lâcheté, notre laxisme, et notre manque parfois de moyens, je pense notamment à l'ouverture de nouvelles places de prison, encouragent les vocations.
Voilà ce que l'on pouvait dire. Enfin, on aurait pu évidemment continuer d'en débattre et puis s'attarder un peu plus sur le procès du meurtre d'Éric Masson, mais on y reviendra bien sûr demain avec cette dernière journée d'audience, les réquisitoires, et on comprend bien que ce fléau de la drogue est très loin d'être réglé et cette guerre est loin surtout d'être gagnée. Dans vos kiosques, demain, Le Figaro, d'abord, tiens, le cas Ursula von der Leyen au cœur de la bataille des européennes pour le quotidien Le Figaro. Aujourd'hui en France, tiens, qui titre, alors qu'il évoque également à gauche de l'écran, vous le voyez, l'IVG qui est entré dans la Constitution, qui est sur le point d'entrer dans la Constitution. Gérard Miller, une enquête sur le côté sombre. Le psychanalyste du PAF est accusé de viol ou d'agression sexuelle par plusieurs femmes, parfois mineures. Des charges accablantes qui évoquent presque toujours le même scénario. Dossier à lire dans Le Parisien. Les Échos, entreprises, la France en pointe sur la place des femmes. Eh bien, écoutez, ça serait intéressant de comprendre pourquoi dans Les Échos. Ouest France, l'IVG bien sûr à la une dans la Constitution. Le Sénat donne son feu vert. On continue un peu avec la presse régionale, les dernières nouvelles d'Alsace. Attentat de Strasbourg, oui, c'est l'heure de la justice puisque 4 hommes comparaissent à partir de demain devant la Cour d'assises de Paris pour leur lien direct ou indirect avec l'auteur de l'attentat de Strasbourg du 11 décembre 2018. Vous avez noté, Tatiana, en haut à gauche, hein, 5 ans après, Patrick Bruel est de retour à la foire au vin. Et ça, ça fait plaisir.
Ça fait plaisir.
Donc on ira voir
Patrick Bruel, le meilleur en tout.
On ira
le meilleur en tout. Meilleur en poker, meilleur en chanson, meilleur huile d'olive du monde, Patrick Bruel.
Ah bon, vous savez. Meilleur, ah oui. Ah, vous êtes fan?
Ah ouais, ouais, pardon.
Ah ouais, d'accord. Je vous irez à Colmar à la foire au vin voir Patrick Bruel?
Eh bah, ben, peut-être. Je vais faire le déplacement.
J'irai avec Johan aussi. On se fera un petit week-end. Non,
je vais réfléchir quand même.
Ah d'accord, sympa. Bah, moi, je vais réfléchir si vous êtes là demain ou pas. La Provence, un poison à l'école. L'amiante, tiens, classé cancérogène, l'amiante est présente dans 85% des écoles primaires françaises. Une enquête de France 5 qui sera diffusée lundi soir fait état de ce taux alarmant. Ben, on pourra lire ça également dans... je cherche un petit papier marrant, mais non, j'en vois pas là. Christophe Chaban, un Vauclusien, et comment ça se passe ? Il me dit non, Mazur, Martin, parce que c'est l'heure... Ah si, je voulais absolument montrer juste ça, 10 secondes, parce que ça, vous connaissez la bougie du sapeur ?
Ah, pas du tout.
Ça sort tous les 4 ans, le 29 février. Ça sort une fois tous les 4 ans, le 29 février. La bougie du sapeur, ça a beaucoup de succès, c'est tiré à 200 000 exemplaires.
Quand même.
Donc c'est un journal étonnant qu'on pourra se procurer.
Actualité.
Le 29 février, demain, la bougie du sapeur. Donc longue vie à la bougie du sapeur qui ne sort que les 29 février. C'est le 12e numéro, donc il faut multiplier par 4. Ça fait 48. Beaucoup. 48. Une minute de débord, me dit Martin, qui a les oreilles qui sifflent, et moi aussi. Martin Mazur, Maxime Fer, Coralie Deleplace, on préparait cette émission. Je vous remercie de nous avoir suivis. À demain, l'édition de la nuit est à suivre. Bonne nuit.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.